I should like to speak today.
Aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés qu'affrontent les familles. Depuis un certain temps, la société est frappée par un cancer. Je parle de la désintégration de beaucoup de nos foyers, de nos familles. La confusion et le désordre ne sont que trop communs dans la société. Mais nous ne devons pas les laisser détruire nos familles. Dans chaque pays, la fibre morale de la société connaît une dépression générale qui place les institutions sacrées de la famille devant de nouveaux défis. Vous en êtes tous conscients parce que ce phénomène nous submerge. Les gouvernements exercent de moins en moins d'autorité morale. De ce fait, les principales institutions qui encouragent une vie juste sont l'Église et la famille. La relation familiale entre père, mère et enfant est l'institution la plus ancienne et la plus durable au monde. Elle a survécu à toutes les différences de temps, de lieu et de culture. Étant donné que le mariage entre l'homme et la femme est un état naturel ordonné de Dieu, le prophète Joseph a dit que le mariage est une institution céleste instituée dans le jardin d'Éden et qu'il est nécessaire qu'il soit célébré par l'autorité de la prêtrise éternelle. C'est un impératif moral. De toute façon, le mariage est la décision la plus importante de la condition mortelle. On ne doit pas se marier simplement pour se marier. Les responsabilités importantes inhérentes à cette relation sacrée nécessitent une préparation mûrement réfléchie. Le mariage demande aussi de la foi, foi en soi-même, foi en son conjoint et foi au Seigneur. Il exige aussi l'engagement total des deux parties. Le premier pas pour construire une famille consiste à se marier. La réticence à l'égard du mariage semble aller croissant dans le monde. Entre 1970 et 2001, le pourcentage des mariages aux États-Unis a décliné, passant de 76 à 45% par an. Les facteurs principaux contribuant à ce déclin sont les jeunes repoussant leur mariage, l'augmentation de la proportion d'adultes qui ne se sont jamais mariés et l'augmentation de concubinage. Le pourcentage de mariages de quatre pays d'Amérique du Sud sondés a décliné de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. Et dans la plupart des pays européens, ces pourcentages ont également diminué de façon spectaculaire depuis plusieurs décennies. Les études montrent toutefois que les membres de l'Église ont davantage tendance à se marier que l'ensemble de la population, et également que les hommes qui se marient vivent plus longtemps, sont en meilleure santé et plus heureux que les célibataires. Le bonheur en famille repose sur la dévotion complète et mutuelle des deux conjoints. Sur le plan des relations sexuelles, la loi du Seigneur est l'abstinence avant le mariage et la fidélité ensuite. Comme mentionné dans la famille Déclaration au monde, les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés qu'entre l'homme et la femme, légitimement mariés. Malheureusement, le mariage est de moins en moins apprécié. À de nombreux endroits, le concubinage est maintenant largement accepté comme pouvant remplacer le mariage. Le concubinage est souvent considéré comme un mariage à l'essai, comportant peu d'engagement. Aux États-Unis, depuis 1960, l'augmentation des couples non mariés vivant ensemble a été de 760% pour s'élever à 38 millions en l'an 2000. La plupart des concubinages prennent fin sans mariage et sont relativement brefs. Les statistiques montrent que les couples de concubins ont davantage de risques de rupture que les couples mariés. Les statistiques de quelques pays représentatifs indiquent que le pourcentage des divorces est aussi en augmentation. D'après les projections des experts, environ la moitié des femmes américaines verront leur mariage se dissoudre au cours de leur vie. Une autre statistique alarmante concerne les naissances hors mariage, qui ont augmenté de 158%. Le changement d'attitude au sujet du début du mariage, au sujet du but du mariage, est également inquiétant. De plus en plus de jeunes considèrent le mariage comme une relation de couple destinée à satisfaire les besoins émotionnels des adultes, plutôt que comme une institution faite pour élever des enfants. La recherche de ces relations de partenaires pourrait bien affaiblir le mariage en tant qu'institution à destinée à élever des enfants. Et un autre problème inquiétant pour la famille est qu'on attache de moins en moins de valeur aux enfants. Dans beaucoup de parties du monde, les gens ont moins d'enfants. L'avortement est probablement le signe le plus clair du fait que les couples ne veulent pas d'enfants. Selon les estimations, un quart de toutes les grossesses dans le monde prennent fin par un avortement provoqué. Le taux varie entre près de 50% en Europe et environ 15% en Afrique. La confiance totale entre les conjoints enrichit énormément le mariage. Rien ne dévaste autant ce noyau de confiance mutuelle que l'infidélité. L'adultère n'est jamais justifié. Le mariage survit parfois à cette expérience destructrice et la famille est préservée. Mais pour cela, le conjoint lésé doit faire preuve d'un amour sans réserve, assez grand pour pardonner et pour oublier. Il faut aussi que le conjoint fidèle veuille désespérément se repentir, recherche humblement le pardon et renonce véritablement au mal. La loyauté envers notre conjoint ne doit pas seulement être physique, mais aussi mentale et spirituelle. Le flirt n'est jamais inoffensif, et la jalousie n'a pas place dans le mariage. Les conjoints doivent éviter même l'apparence du mal en s'abstenant de tout contact douteux avec toute personne avec laquelle ils ne sont pas mariés. La vertu est le ciment qui soude le mariage. Le Seigneur a dit, « Tu aimeras ta femme de tout ton cœur et tu t'attacheras à elle et à personne d'autre. » Toute promesse faite par un homme et une femme lors de la cérémonie du mariage, et particulièrement lors d'un scellement au temple, a la valeur de l'une des alliances les plus importantes que nous puissions faire. Il faut toujours respecter les alliances sacrées. Les difficultés que la famille affronte de nos jours sont nombreuses et grandes. Nos relations familiales ont besoin de toutes les protections possibles et le respect des alliances sacrées est une défense puissante. Néhémie, dans l'Ancien Testament, construisait une muraille à laquelle il ne restait plus d'une brèche pour protéger Jérusalem. Ses ennemis le supplièrent de descendre de la muraille parce qu'il voulait lui faire du mal. Néhémie resta sur la muraille et dit, « Je ne puis descendre, le travail serait interrompu. Nous ne pouvons pas construire des murs de briques et de pierres autour de notre famille, mais nous devons constamment l'entourer de garanties pour la protéger. Ces garanties seront une protection. Je vais citer trois moyens de protéger et de fortifier notre famille. Premièrement, il y a la prière en famille. Nous invitons chez nous l'Esprit du Seigneur par la prière et l'harmonie au foyer. Les parents doivent enseigner à leurs enfants qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils doivent le prier chaque jour. La prière en famille est une expérience qui crée des liens. Les petits-enfants peuvent apprendre à prier en entendant les prières de leurs parents et de leurs frères et leurs aînés. Pour ma part, les prières de mon grand-père ont captivé mon cœur et mon esprit lorsque j'étais jeune. Sa famille, qui était nombreuse, s'agenouillait matin et soir avant les repas. À l'époque, je trouvais ses prières beaucoup trop longues. Il avait beaucoup de raisons de prier. Il était cultivateur et éleveur. C'était l'époque de la Grande Dépression. Il y avait dans le pays une sécheresse terrible. Son bétail mourait de faim. Il avait de nombreuses bouches à nourrir. Mais ses prières étaient si ferventes et sa foi si grande que j'étais convaincu que le Seigneur pourvoirait et que tout irait bien. Finalement, cela a bien été le cas. La prière personnelle et la prière en famille sont indispensables au bonheur personnel et familial. La deuxième protection est la soirée familiale hebdomadaire. La soirée familiale est pour nous tous, quel que soit notre stade dans la vie. Sœur Faust et moi-même trouvons la soirée familiale différente pour nous, comparativement à l'époque où nous étions entourés d'enfants et de petits-enfants. Maintenant, la plupart du temps, nous étudions les Écritures ensemble. Il y a quelques semaines, lors de notre soirée familiale, nous avons lu notre bénédiction patriarcale pour comprendre ce que nous pourrions encore avoir à accomplir. Nous avons découvert que nous avons encore du travail à faire. Quelques familles ne tiennent plus cette importante réunion. Nous devrions faire tout notre possible pour libérer nos lundis soirs de toute autre activité. La soirée familiale, comme un ciment, lie notre famille. Les leçons doivent être édifiantes et impliquer les membres de la famille dans une ambiance détendue, empreinte d'amour. Nous devons essayer d'impliquer d'une manière ou d'une autre chacun, bébé excepté, dans nos soirées familiales. Les tout-petits peuvent y participer en chantant. Les enfants plus grands peuvent être chargés de préparer et de donner la leçon, entièrement ou en partie. D'autres membres de la famille peuvent aider les plus jeunes à se préparer. Il faut inviter chacun à poser des questions au sujet de son étude personnelle de l'Évangile ou de la leçon. La soirée familiale est également un bon moment pour planifier des activités familiales afin que chacun sache ce qu'on attend de lui. C'est un moment où les malentendus peuvent être dissipés. C'est aussi le moment d'encourager les membres de la famille à développer leurs talents et à rechercher de nouveaux dons. Le troisième principe de base est l'étude des Écritures, personnellement et en famille. Cela nécessite de la planification et de la discipline de la part des parents et de tous les enfants. Nous devons aider nos enfants en fortifiant leur foi et leur compréhension. Récemment, une jeune femme qui venait de se marier au temple a parlé de la valeur de l'étude des Écritures dans sa famille pendant son enfance et son adolescence. Sa mère réveillait la famille pour la lecture des Écritures tous les matins à 5 heures en faisant sonner une grosse cloche de vache. Cela la mettait de mauvaise humeur et elle trouvait que cet exercice journalier était une perte de temps. Néanmoins, cette habitude s'est poursuivie depuis son enfance jusqu'à sa vie d'adulte. En y repensant, cette jeune femme se rend maintenant compte que ce moment d'étude des Écritures en famille a établi un modèle important qu'elle et ses frères et sœurs ont continué à suivre dans leurs familles respectives. Au cours de ces périodes d'études, lentement mais sûrement, elle a acquis le témoignage de l'Évangile. Au cours de ces années de formation, elle a également établi un lien éternel profond avec ses parents et avec chacun de ses frères et sœurs. L'étude des Écritures, individuellement et en famille, est un processus qui dure toute la vie. Les enfants risquent de peiner un peu sur le langage propre aux Écritures. Les parents et les frères et sœurs plus âgés doivent donc prendre le temps d'en parler et d'expliquer les passages les plus compliqués. Ils doivent expliquer leur rapport avec certaines de leurs situations actuelles. Il faudra peut-être des années pour que l'habitude de l'étude des Écritures s'établisse fermement dans la famille. Cela ne se fait pas tout seul. Les habitudes d'études forment un mur protecteur sur lequel les familles peuvent s'appuyer pour être plus unies. Récemment, Sœur Faust et moi avons fait la connaissance de la dernière de nos arrière-petites filles. Je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois. Je me suis rendu compte que cette chère petite fille devra apprendre à affronter énormément de choses afin de pouvoir être heureuse dans la vie. Le meilleur endroit où les enfants puissent apprendre ce qui a le plus d'importance, c'est le foyer, parce que c'est là que l'amour se trouve le plus. Les parents ont reçu le commandement d'enseigner à leurs enfants la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, et du don du Saint-Esprit. Pour relever les défis de la vie, nos enfants doivent avoir le témoignage que le Sauveur est le Rédempteur du monde. Ils doivent apprendre qu'un jour, ils devront rendre compte au Seigneur de leurs actions pendant cette vie. Ils doivent également connaître le plan de bonheur du Seigneur pour ses enfants. Cela veut dire qu'ils doivent savoir que Dieu les aime, que nous avons vécu avec lui avant que le monde soit, et que chacun de nous peut retourner à lui grâce à la mission de son Fils Jésus-Christ. Pour affronter les difficultés de la vie, les enfants doivent aussi avoir de l'instruction. Les parents doivent faire régner la discipline dans l'amour et la justice. On ne peut pas forcer les enfants à obéir. Comme l'a dit le président Hinckley, la discipline doit régner dans la famille. Mais la discipline faite de sévérité, la discipline faite de cruauté, conduit inévitablement non à l'amélioration, mais à l'amertume et au ressentiment. Cela n'arrange rien et ne fait qu'aggraver le problème. Cela va à l'encontre du but recherché. La meilleure méthode pour corriger les enfants lorsqu'ils ont mal agi est faite de fermeté, d'amour, de patience, de gentillesse, de persuasion et de raisonnement. À mon avis, les membres de l'Église possèdent le remède le plus efficace contre la dégradation de la vie de famille de notre société. Il faut que les hommes, les femmes et les enfants honorent et respectent les rôles divins tant du père que de la mère au foyer. Ce faisant, le respect mutuel et l'estime entre les membres de l'Église seront favorisés par la droiture qu'on y trouve. Je suis conscient qu'il existe des parents qui élèvent seuls leurs enfants. Je répéterai donc le sage conseil donné par John B. Dixon. Il a écrit : Lorsque la situation idéale du foyer avec père et mère n'existe pas, nous devons faire de notre mieux pour offrir le soutien de la prêtrise et de l'organisation. Mais nous ne devons pas priver les parents de leur rôle prééminent. Je sais aussi que parfois les femmes sont obligées de travailler hors du foyer pour subvenir aux besoins de la famille. Lors de la conférence de presse du 13 mars 1995, au cours de laquelle la nouvelle première présidence fut présentée, des journalistes ont posé des questions au sujet des mères qui travaillent. Président Hinckley a répondu : Faites de votre mieux et souvenez-vous que les plus grands atouts que vous avez en ce monde sont ces enfants que vous avez mis au monde et que vous avez la responsabilité d'éduquer et d'élever. De nombreux pères s'engagent beaucoup dans l'éducation de leurs enfants. Cependant, il y a de plus en plus d'hommes qui sont non concernés ou entièrement absents de la vie de leurs enfants. Les hommes qui sont des enfants, qui ont des enfants hors mariage ou qui vivent en concubinage au lieu de se marier, ont beaucoup moins tendance que les hommes mariés à offrir à leurs enfants l'éducation et le soutien constant dont ils ont besoin. Avec sagesse, Dieu a établi une autorité directrice pour l'institution la plus importante du monde. Cette autorité directrice est la prêtrise. La prêtrise offre à tous les membres des bénédictions divines par l'intermédiaire des serviteurs qu'il a désignés. Cette autorité de la prêtrise peut apporter des bienfaits à tous les membres par l'intermédiaire des visiteurs au foyer, des présidents de collège, des évêques, des pères et de tous les autres frères justes qui sont chargés de l'administration des affaires du royaume de Dieu. La prêtrise est le pouvoir et l'influence juste par lesquels les jeunes gens apprennent. dans leur jeunesse et tout au long de leur vie, à honorer la chasteté, à être honnêtes et travailleurs, à respecter les femmes et à apprendre leur défense. La prêtrise est une influence modératrice. On enseigne aux jeunes filles qu'elles peuvent réaliser beaucoup de leurs désirs et aspirations grâce à son influence et à son pouvoir de bénir. C'est par l'intermédiaire de la prêtrise que sont exercées les grandes clés de scellement rétablies par Élie et dont parle Malachie. Dans les familles justes, elles servent à ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que le Seigneur ne vienne frapper le pays d'un dernier. Ce pouvoir de scellement conféré par Élie se révèle dans les relations familiales, dans les vertus et les attributs acquis dans un environnement éducatif et dans le service inspiré par l'amour. Nous devons appuyer la mission d'Élie de ramener le cœur des pères et des enfants les uns vers les autres. Les ordonnances du temple ne deviennent opérantes et ne produisent le bien que lorsqu'elles se révèlent dans notre vie quotidienne. Ce sont les liens qui unissent les familles et la prêtrise favorise leur développement. J'exhorte instamment les pères, les maris, les femmes et les enfants à honorer et à révérer les bénédictions de la prêtrise. Ce faisant, ils peuvent aider à guérir une partie du cancer qui afflige notre société et s'immisce dans nos familles. Je prie pour qu'on apprenne aux pères à honorer les appels de la prêtrise en tant que patriarche de la famille et pour que les sœurs soient bénies dans leurs rôles essentiels, la maternité, et pour qu'ensemble ils obtiennent les récompenses promises par notre Père Céleste. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen.